Et le journal avec vous, Audrey Mondy, bonjour.
Bonjour. Deux jours après avoir été licencié, Bernard Chaland revient sur son aventure extraordinaire avec l'équipe nationale du Kosovo. Le Neuchâtelois a œuvré à mettre cette sélection sur la carte du football. Un représentant de l'évêque à Neuchâtel, le diacre Romuald Babet, a répondu favorablement à cette nouvelle mission. Il souhaite avant tout amener de la tendresse à ses paroissiens. Les aumôniers sont en première ligne dans cette mission. Le NUC, toujours sur son nuage. Hier soir, les volleyeuses neuchâteloises se sont qualifiées pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions au détriment de Zagreb devant un public de feu. Le ciel risque de se voiler dans le courant de l'après-midi avec des passages nuageux de haute altitude. Le week-end, lui, s'annonce bien ensoleillé malgré quelques bandes brouillard. L'annonce en a surpris plus d'un, mais pas le principal concerné. Bernard Chaland savait que ses jours étaient comptés à la tête de l'équipe nationale du Kosovo. L'entraîneur neuchâtelois a été démis de ses fonctions mercredi, une décision qui fait suite à la défaite de sa sélection contre la Géorgie mardi soir dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 de football. Reste que Bernard Chaland a porté le Kosovo aux portes de l'Euro 2020, n'échouant qu'en barrage. Il affiche 16 victoires, 8 nuls et 13 défaites depuis qu'il a repris la sélection en mars 2018. Mais à l'heure du bilan, ce n'est pas que les résultats qu'il souhaite retenir. Bernard Chaland.
On a bien joué au football, très souvent. Le football offensif, mais qui était tout à fait logique pour moi, parce que les Kosovars, ils ne peuvent pas concevoir qu'on défende comme des fous. Il faut faire des tunnels, il faut faire des dribbles, il faut... Et là, ils s'enflamment, etc. Même si c'est peut-être au-delà de l'efficacité et de choses comme ça. Donc c'est plus ça qui m'a passionné, c'était de développer, essayer de progresser au niveau football.
Bernard Chaland a participé à rendre la sélection du Kosovo crédible et l'a aidé à trouver sa place sur la carte du football. Mais pour le Neuchâtelois, c'était aussi une aventure qui est allée au-delà de l'aspect purement sportif.
En arrivant là-bas, dans un pays qui n'existait pratiquement pas encore dans le monde du football, je débarque et on fait 14 matchs sans défaite. Et le public, le pays qui a besoin de reconnaissance est devenu très très fier de son équipe nationale. Et puis, par la même occasion, très content du travail de l'entraîneur. Et c'est vrai que j'ai été nommé personnalité de l'année, été prince du Kosovo, tout ce qu'on veut. C'était très drôle. Mais ça a l'air quand même au-delà du football. On sentait que les gens ont besoin de reconnaissance. Donc le football a permis quand même de faire connaître le pays de manière positivement. Une petite grand-maman qui me prend dans ses bras, qui me dit merci pour ce que vous avez fait pour le pays. Ça a beaucoup plus d'importance pour moi que de mon bilan. Donc c'est ce qui me fait vivre tout ça très sereinement et avec simplicité.
Quant à son avenir, Bernard Chaland laisse la porte ouverte. 70 ans, l'heure de la retraite a peut-être sonné, mais quoi qu'il en soit, et il l'assure, il continuera de se passionner, mais aussi de pousser des coups de gueule pour ce football qu'il aime tant. Et on reviendra sur le reste de l'actualité sportive du jour, ce sera dans le Point Sport, juste après le journal. Il représente depuis mi-septembre l'évêque en terre neuchâteloise. Romuald Babet a répondu favorablement à cette proposition de Mgr Morero. Déjà diacre au Val de Travers, il souhaite avant tout transmettre de la tendresse à ses paroissiens. Romuald Babet n'est pas seul pour accomplir cette mission. Il est notamment entouré d'aumôniers qui se rendent dans les prisons, les EMS ou encore les hôpitaux. Et avec la crise sanitaire, ils n'ont pas chômé. Romuald Babet.
Nous avons un certain nombre d'aumôniers qui travaillent dans les hôpitaux, dans les EMS. Alors dans les hôpitaux, nous avons été bien accueillis, nous avons pu continuer à faire notre travail, notre mission. Et on a même le personnel des hôpitaux qui a fait appel à nos aumôniers qui sont quand même des spécialistes de l'écoute. Et ils ont pu répondre à leurs difficultés du moment, et notamment les patients aussi qui étaient esselés dans leur chambre.
Donc là, ça va vraiment au-delà de la religion.
Alors on est ici effectivement à la frontière entre spiritualité et religion. Il est vrai qu'on est souvent appelé dans un EMS ou à l'hôpital à répondre à cet aspect de la spiritualité chez l'humain. Et puis après, d'autres personnes peut-être expriment cela à travers une religion, notamment notre religion à nous qui est le christianisme.
Romuald Babet répondait à Sarah Massy dans la matinale. Un entretien à découvrir en intégralité et en vidéo sur rtn.ch. Il s'exprime notamment sur les scandales de pédophilie qui entachent l'église catholique. S'ils avaient voté cette semaine sur les objets soumis au peuple le 28 novembre, les citoyens suisses auraient déposé 3 oui dans l'urne. Les résultats d'un premier sondage du groupe de presse Tamedia ont été publiés ce matin. Pour l'heure, ce serait un immense oui à l'initiative pour les soins infirmiers à 82%, un oui solide à la loi Covid et au certificat sanitaire à 63%. En revanche, le oui au tirage au sort des juges fédéraux est très chancelant à 48%. 33% des sondés disent non et 19% n'ont encore aucun avis sur la question. Deux référendums sont lancés contre les lois votées par le Parlement en septembre. Le premier s'oppose au changement de paradigme concernant le don d'organes qui passe au consentement présumé. Une initiative populaire réclame que le consentement présumé est strict. Le contre-projet du Parlement s'en tient, lui, au consentement présumé large qui implique les proches. C'est encore trop pour un comité référendaire qui défend le principe du droit à l'intégrité des corps. Et les jeunes des partis bourgeois lancent de leur côté le référendum contre la loi sur le cinéma, appelé aussi l'ex-Netflix, qui impose une taxe aux fournisseurs de streaming. Ils devront verser 4% de leur chiffre d'affaires en Suisse au cinéma helvétique. C'est contraire aux principes libéraux, disent les opposants, à l'instar du vice-président des jeunes libéraux radicaux, Alec von Barknau.
Pour nous, c'est une attaque sur les consommateurs qui est inacceptable et bien évidemment un affront envers les principes libéraux qui règnent dans ce pays. Le secteur du cinéma suisse touche un certain pactole de la part de l'OFC, de la SSRA. Donc de la redevance SERAF et des fonds régionaux, c'est pas forcément quelque chose qui est opposé à nos objectifs. Néanmoins, cette loi, elle est clairement. On voit que c'est un combat qui est porté par la jeunesse notamment.
La France taxe ses super grands du streaming à hauteur de 25%, l'Italie 20%. Ce ne sont pas des exemples à suivre.
Nous, c'est pas tellement ce que font les pays étrangers qui nous intéresse, mais au final, c'est le consommateur. Avec cette loi, c'est directement le consommateur qui devra payer plus. Et pour nous, c'est inacceptable.
Des propos recueillis par Serge Hubin. Les référendaires ont jusqu'au 20 janvier pour récolter 50 000 signatures. Les opposants aux mesures de lutte contre le coronavirus se sont à nouveau rassemblés hier soir à Berne. La manifestation n'était pas autorisée. Les manifestants s'étaient rassemblés vers 19h30 aux alentours de la gare. Ils brandissaient des drapeaux suisses et scandaient « Liberté ». La police a contrôlé sur place plusieurs centaines de personnes et procédé à 510 expulsions du centre-ville. La Suisse commémore aujourd'hui les 20 ans d'un terrible accident dans le tunnel du Gotthard. En 2001, deux camions s'étaient percutés, ce qui avait provoqué un violent incendie. 11 personnes avaient péri au cours de ce drame et le tunnel était resté fermé pendant 2 mois. Dès lors, de nombreuses mesures ont été prises. Aujourd'hui, les camions entrent au compte-gouttes dans le tunnel et leur température est mesurée avant qu'ils n'y pénètrent. Le marché européen de l'automobile s'écroule à cause des pénuries. Il est revenu à ses niveaux de 1995, indiquent aujourd'hui les constructeurs. À peine plus de 700 500 nouvelles voitures ont été vendues en septembre, soit une baisse de 23,1% sur un an. L'année dernière, à la même époque, les constructeurs avaient pu rebondir après les confinements. Mais dans ce contexte de reprise de l'activité, ils se retrouvent en concurrence avec d'autres industries gourmandes en puces, ordinateurs ou objets connectés qui captent une grande partie de ces pièces fabriquées en Asie.
À l'écoute d'RTN, il est midi et 23 minutes.
Sport. Le NUC commence à se faire un nom sur la scène européenne. Hier soir, les Neuchâteloises ont battu Mladost Zagreb 3-2 à la Riveraine pour se hisser au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le NUC affrontera les Ukrainiennes de Prométhée Dnipro pour accéder à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce 50e match de Coupe d'Europe marquait aussi le retour du public en masse à la Riveraine. 1240 spectateurs ont fait le déplacement pour assister à la qualification du NUC. Jouer dans une telle ambiance, c'était une première pour Samira.
Ça, je ne connais pas du tout avec les spectateurs ainsi beaucoup. C'était trop cool. J'aime trop si tu sens les chants et ouais, ça me fait trop plaisir avec cette fan.
Ça donne un petit peu plus de motivation.
Ça donne beaucoup d'énergie et ouais, ça aide aussi dans les moments difficiles. Et puis c'est trop cool, ouais, j'adore.
Sur une note personnelle, vous êtes la meilleure joueuse aussi, la MVP de ce match. Ça vous fait aussi plaisir, j'imagine?
Oui, ça c'est encore le petit point sur le i. Je sais pas comment c'est, si ça existe aussi. Mais ouais, le plus important pour moi c'était pour gagner et ça on est arrivé et ça le fait encore mieux. Mais le plus important pour moi c'était la victoire.
Des propos recueillis par Stéphanie Wenker. Le match aller contre Prométhée Dnipro se déroulera normalement dans 2 semaines. Une pause qui aura certainement fait du bien. Neuchâtel Xamax reprend le championnat de Challenge League ce soir après la trêve internationale. Les Rouges et Noirs affrontent Vaduz dès 20h30 à la Maladière. La partie est à suivre en direct sur RTN. Après deux défaites face à Thun et surtout face à Chafouz avec un cinglant 4-0, les Xamaxiens ont abandonné leur place de leader à Winterthur. Deuxième du classement à 2 points des Uriquois, Xamax ne doit pas lâcher l'affaire. Ombre au tableau, les Xamaxiens ont perdu leur milieu offensif Ayoub Wafsa, qui s'est gravement blessé durant la trêve. L'entraîneur de Xamax, Andrea Binotto.
Malheureusement, c'est un accident à l'entraînement. Le verdict est tombé ces derniers jours. Il est clair, les ligaments croisés du genou sont touchés. Il faudra qu'il opère et puis ça fait qu'on devra compter pendant 6 mois sans lui.
C'est quand même un coup dur d'avoir des joueurs comme ça qui se blessent à l'entraînement. C'est même pas en match, c'est la poisse quoi.
Oui, bon après, je suis assez convaincu que si on fait une statistique des blessures, il y en a peut-être plus à l'entraînement qu'en match parce qu'on passe plus de temps à l'entraînement qu'en match et les intensités sont souvent les mêmes. Maintenant voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement dans le football. C'est dur surtout aussi pour le garçon à qui je souhaite un prompt rétablissement. Et puis à nous maintenant de continuer à trouver des solutions autrement.
Par contre, du côté de Neuchâtel Xamax, on enregistre des retours qui font plaisir. On a même pu savoir que certains joueurs ont pu se réentraîner à 100%.
Oui, on a eu le retour de Tavares, de Pache, de Belloco, de Gazzetta aussi. On a la possibilité de retrouver gentiment notre contingent. Maintenant, il faut que ces joueurs qui reviennent de blessure, il faut leur laisser aussi un petit moment pour qu'ils retrouvent le rythme et la compétition.
Des propos recueillis par Yann Esler. Adam Ouattara, qui a été expulsé lors du match face à Chafouz, sera absent. Au rayon de l'infirmerie, seul Hendrit Morina est toujours blessé. Xamax Vaduz, c'est à suivre en direct dès 20h15 sur RTN. Et d'ici là, belle suite de journée à toutes et à tous.